9h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et ce soir, nous parlons politique. Difficile de croire que dans un peu plus d'un mois et demi déjà auront lieu en France les élections européennes, tant la campagne se montre discrète. Pourtant, les meetings se multiplient, les sondages également. Et ces sondages s'accordent sur un fait, la liste du Rassemblement National, portée par Jordan Bardella, est confortablement en tête. D'où notre question ce soir, est-ce que le RN est le seul parti à se faire entendre? Pourquoi les autres mouvements, pourtant bien plus europhiles, peinent-ils tant à se distinguer? Quelle situation chez nos voisins européens et que peut-il encore se passer d'ici le 9 juin prochain? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Face à vous, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Et enfin, notre troisième invité, Yuvni Kessouf, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Mediapart en charge de l'extrême droite. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, nous sommes le 22 avril, donc dans un peu plus d'un mois et demi, les jeux seront faits, les élections européennes auront eu lieu. Est-ce que, ce sera ma première question, est-ce qu'on est dans un tempo normal, habituel? Par exemple, les écologistes n'ont présenté qu'aujourd'hui leur liste. De nombreux partis ne l'ont pas encore fait. Du côté du camp présidentiel, il va falloir attendre le début du mois de mai pour connaître le programme de campagne. Olivier Roucan, est-ce que ça ne traîne pas un peu pour le moment, parce que l'adhésion, l'attention des Français, pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit recueillie.
Il y a une évolution qui fait que les campagnes, vous savez, cette idée est apparue, a été développée à partir de 2002, et depuis montant en puissance, les campagnes se jouent dans une temporalité de plus en plus restreinte par des coups de campagne, et cela va avec à la fois la forte hésitation à aller voter. Et plus les repères classiques sont dilués, plus le comportement électoral est imprévisible, volatile, il y a des fluidités, des changeurs, comme l'on dit, en cours de campagne. Donc tout ceci fait que finalement, l'aspect structuré, organisé de tout ceci diminue. Et ce qui a vraiment, de mon point de vue, changé les choses, c'est le fait que les partis sont devenus liquides. C'est-à-dire que c'était eux qui organisaient les campagnes. L'infrastructure, la logistique, alors elle existe toujours, mais l'affaiblissement des partis politiques a changé les campagnes, à proportion d'ailleurs que la sphère médiatique, les salons, je dirais d'aujourd'hui, ce sont les chaînes info, avec les réseaux sociaux, tout ceci fait un complexe qui renforce l'instantanéité et, je dirais, l'idée qu'on marque l'opinion dans un temps restreint sur des coups qu'on arrive à organiser.
Mais est-ce qu'on peut dire que les campagnes électorales reculent?
Le timing du début. Alors sur les là, j'avoue que je n'ai pas révisé le timing des européennes précédentes, mais je pense que on est plutôt suite à ce qui vient d'être dit dans un temps raccourci de campagne.
Ce temps raccourci.
Alors juste une précision, pas sur le point de vue de la réglementation et du caractère officiel des campagnes. Donc là, dans le terme campagne, j'incluais la pré-campagne et de toute façon. Maintenant, quand on parle des campagnes, c'est plus presque de la pré-campagne que du temps officiel.
Le temps officiel, la campagne doit débuter à la fin du mois de mai. Donc effectivement,
c'est toujours rapide.
Voilà, c'est effectivement un temps très restreint et peu de temps avant le scrutin. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que tout cela, ce temps accéléré, il joue en faveur du Rassemblement national? Est-ce que c'est une des explications du fait que, alors on va détailler peut-être les sondages, mais encore le dernier aujourd'hui, place Jordan Bardella, tête de liste RN en tête avec 31,5%, et le deuxième candidat, c'est Valérie Ayer, du parti présidentiel, et qui est bien loin, qui est à 17%.
Il y a deux dynamiques de campagne qui sont installées depuis un moment. Il y a le Rassemblement national qui bénéficie en réalité d'une énergie de long terme. C'est vrai que les campagnes, on les joue un peu au finish, c'est-à-dire qu'on les joue, comme ça vient d'être dit, un peu au dernier moment, quand on a besoin de donner un coup de collier pour gagner quelques points supplémentaires, mais les tendances de fond, on les perçoit quand même assez vite. Et là, la tendance de fond, c'est quand même que le Rassemblement national est en tête de plus de 10 ou 12 points, donc c'est très très loin devant. Par contre, il y a une deuxième liste qui monte, c'est Raphaël Glucksmann, donc pour être un peu plus optimiste, si on veut, et qui grimpe en étant précisément en train de grappiller des points sur le dos du parti présidentiel.
Donc, le parti socialiste.
Le parti socialiste, oui, alors... quel est le nom de Raphaël? De quoi Raphaël Glucksmann est-il le nom? Oui, du Parti Socialiste un peu. D'indépendants qui avaient choisi de présenter Place Publique, un parti déjà créé pour les européennes de toutes pièces également, qui donc voulait plus du PS à l'époque. Il y a probablement des écolos dedans aussi déçus. Il y a beaucoup de macronistes déçus dans le cœur des électeurs potentiels. Ça, c'est les deux moteurs qui fonctionnent bien. Le parti présidentiel est en panne parce que, en gros, le président a joué à droite toute. Donc, ce qu'a essayé de faire le président, si on comprend bien, si on essaie de comprendre la stratégie, c'est d'éviter qu'il y ait trop de seniors de droite CSP+, qui sont le cœur de son électorat, qui aillent vers le RN. Si on comprend, c'est ça qu'il essaye de faire. C'est pour ça qu'il tape sur les jeunes, avec l'internat, avec les jeux vidéo. Enfin, les jeunes, aujourd'hui, sont un problème et plus du tout une solution. En 2017, les jeunes étaient la solution. Là, ils sont devenus un problème. Donc, il semble aller là-dedans et probablement pour aller dans le sens d'Olivier Roucan. En dernière étape, pour éviter que trop de modérés aillent chez Glucksmann, il va donner un petit coup de barre à gauche. Alors, je ne sais pas comment il va faire, ça va être un peu compliqué. Sur l'Ukraine, sur l'IVG, j'en sais rien, sur des choses qu'il essaye, avec lesquelles la fin de vie peut-être, pour essayer de limiter les dégâts. C'est comme ça qu'il conçoit sa stratégie, c'est-à-dire tout à fait comme Olivier vient de le dire, sur du court terme, paf, des petits coups, on essaie d'ajuster comme ça. Mais le RN, lui, la force, c'est que c'est un travail de fond qui est installé depuis des mois, et Glucksmann, c'est pareil, ce sont des gens qui sont dans des travaux d'image qui durent depuis des mois.
Avant de donner la parole à Yumni Kezouf, qui suit l'extrême droite pour Mediapart, est-ce qu'Olivier Roucan, vous faites le même parallèle que Philippe Moreau-Chevrolet sur cette trajectoire de Raphaël Glucksmann et du Rassemblement National? Évidemment, on ne les met pas sur un même niveau politiquement, ça n'a rien à voir, mais sur le fait qu'ils bénéficient tous deux d'une dynamique positive, allant à l'inverse, évidemment, du parti présidentiel, mais aussi de la France Insoumise, qui reste un peu plombée à la quatrième place actuellement, cinquième place, même 7,5% pour Manon Aubry.
Alors, je distinguerai, je crois d'ailleurs que c'est ce qui a aussi été fait, le Rassemblement National de... Alors, Parti Socialiste et Alliés, on va dire, enfin, ou nébuleuse, on va dire, autour de Place Publique, parce que la dynamique de Raphaël Glucksmann, même si c'est un député européen, il est présent au Parlement européen, il prend ce rôle au sérieux, contrairement à beaucoup, quand même. Donc, il est installé là-dedans, mais sa dynamique est nouvelle. Et c'est même, on la présente souvent comme un peu une surprise. Et il est vrai qu'il grignote parce qu'il y a une usure du camp Macron qui est apparue très vite après la réélection du président. Mais il grignote aussi à LFI, il grignote chez les écologistes, quand on voit les changeurs. Donc c'est tout ceci agrégé qui fait sa dynamique. Alors est-ce que c'est un travail de fond lancé depuis longtemps? Bon, oui, il y a pour lui la stature, la position européenne, mais enfin, le Rassemblement National, ça me semble... Alors là, c'est une dynamique installée d'image, de normalisation, d'une part, et puis de figuration, la figuration de la respectabilité et la normalisation des idées. Et ce qui, dans la durée, me semble-t-il, avantage beaucoup cette normalisation... En fait, ce sont les Républicains, voire Renaissance, parce qu'ils ont crédibilisé toute une partie du programme du Rassemblement National. Et ça, ça me semble pouvoir se lire dans ces 30%-là, cette fois-ci.
Yumni Kezouf, la dynamique du RN est installée, nous dit Olivier Roucan. Comment vous l'observez, cette dynamique, vous qui suivez encore une fois l'extrême droite pour Mediapart, et quand a débuté, selon vous, la campagne, peut-être beaucoup plus tôt que les autres partis du Rassemblement National et de Jordan Bardella, la tête de liste?
En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que pour le coup, même si effectivement on a tendance à dire que effectivement, les élections, et particulièrement les élections européennes, qui sont plus des élections qui mobilisent moins, ou plutôt peu, les électeurs français, des élections aussi dont les enjeux sont moins compris par la plupart des gens, le Parlement européen c'est loin, on comprend pas tout, etc. Le Rassemblement National a commandé sa campagne des européennes extrêmement tôt, a désigné sa tête de liste, même si sa désignation était un secret de polichinelle, mais délété. Les premiers meetings sont arrivés très tôt. Mais en fait, c'est aussi parce que le Rassemblement national est en campagne présidentielle. Le Rassemblement national, les élections européennes, le RN passe son temps à dire que c'est une élection de mi-mandat, ouais. Une sorte de mid-terms à l'américaine, que le but, c'est de désigner l'opposant principal à Emmanuel Macron. Et Jordan Bardella passe son temps à dire que c'est une élection qui le place en premier ministre d'une éventuelle présidente Marine Le Pen. Donc, pour le RN, une répétition générale de l'élection présidentielle. Donc le RN est déjà en campagne présidentielle.
Mais quels sont les thèmes que défend le RN? Vous qui avez suivi plusieurs meetings déjà de Jordan Bardella ou de tête de liste ou de membres de la liste du Rassemblement national.
Alors le RN fait globalement campagne sur deux thèmes principaux sur ces élections européennes qui marchent l'un avec l'autre. L'un, c'est son thème principal, c'est l'immigration, c'est la lutte contre l'immigration, qui est donc un thème historique du Rassemblement national sans aucun souci, qui est aussi le thème qui est le plus porteur, et ça on le voit beaucoup, notamment dans les meetings. C'est-à-dire que c'est sur ces thématiques-là que les militants qui sont dans les salles, ou sur les foires, etc., c'est lorsqu'on évoque ces thématiques-là qu'il y a le plus de bravo, le plus d'applaudissements, etc. On sent que c'est vraiment ça, le cœur de cible de son électorat. Et puis, il y a aussi une campagne qui est faite beaucoup, surtout depuis le mois de janvier et les crises qu'on a connues avec les agriculteurs qui sont beaucoup mobilisés, etc. Beaucoup une campagne contre l'écologie, qui est vendue comme une écologie dite punitive, une écologie de la Commission européenne de Bruxelles, qui viendrait imposer toujours plus de normes aux agriculteurs, mais pas seulement, aux commerçants, aux artisans, etc. Donc il y a ces deux visions, une vision contre l'écologie punitive, et puis évidemment une lutte contre l'immigration, qui reste le cœur du sujet.
Philippe Moreau-Chevrolet, alors est-ce que c'est un test national, ces élections européennes, des élections de mi-mandat, comme nous le dit Yumni Kezouf, ces élections européennes, des élections de mi-mandat en France en tout cas, parce que le thème qui revient, c'est un thème qui est européen, l'immigration. Et d'ailleurs, les pays où l'extrême droite est en tête sont globalement ceux qui estiment que la lutte contre l'immigration clandestine devrait davantage être une priorité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas complètement un hasard que l'extrême droite caracole en tête aujourd'hui, sachant que le thème qui émerge dans cette campagne, ou en tout cas que le Rassemblement national a su faire émerger, c'est un thème qui lui est cher.
Oui, c'est plus la question de ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire la capacité à mettre à l'agenda des thématiques politiques. Il se trouve que l'extrême droite arrive à le faire de manière assez brillante un peu partout en Europe. Ce n'est pas un phénomène que français. Il faut voir que dans les enquêtes d'opinion, l'immigration n'arrive pas en tête des préoccupations des habitants dans aucun de ces pays. Il n'y a aucun pays qui se réveille le matin en se disant « il y a trop d'immigrés ». C'est plutôt d'ailleurs en Europe des pays en déficit souvent de main-d'œuvre et d'immigration. Enfin, la réalité, c'est ça quand même. Après, il y a un problème de... Il y a une véritable victoire de l'extrême droite dans la capacité à formuler l'agenda public et les modérer, perdre la capacité de le faire. Soit ils le font de manière tactique, de manière assez grossière, comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire un coup je tape sur les jeunes, un coup je suis pour l'IVG, etc. Bon, ça devient illisible et on finit par faire une espèce de patchwork politique qui devient illisible. On peut gagner par défaut, mais pas par adhésion. Mais il est très difficile pour les modérés d'avoir cette accroche dans l'espace public parce que, déjà, ils sont souvent sidérés par l'audace des populistes. Ouais. Et ils sont interdits devant cette audace des populistes. Et ça, c'est vraiment la victoire des populistes sur les modérés. C'est ça, on est sidérés. Je ne vais pas parler que du RN, mais pour ce qui est de LFI, on peut être légitimement sidérés par certaines prises de position anti-vax ou border, enfin, aux franges de l'antisémitisme, parfois. Donc, c'est sidérant. Et du coup, les modérés sont d'abord... ils ne savent pas comment se battre contre des gens comme ça.
Ils ont d'autres choix, finalement, les modérés, entre eux, que de répondre aux thèmes dictés par les extrêmes.
Ils rentrent à fond dans ces cadres-là. Bah,
c'était le cas, par exemple, lors de la dernière présidentielle avec le pouvoir d'achat, qui a émergé par Marine Le Pen, en premier lieu, et finalement, les autres partis ont suivi.
Oui, on peut suivre. Mais sur le pouvoir d'achat, on peut éventuellement gagner la bataille. C'est impossible de gagner quand on est modéré sur l'immigration. Ça, c'est strictement impossible. Sur le pouvoir d'achat, on peut, mais il faut installer ces débats. Enfin, je veux dire, pourquoi la gauche ne défend pas les services publics? Pourquoi est-ce que personne ne défend les services publics? Les gens sont attachés aux services publics. Ils sont attachés à l'hôpital, sont attachés à l'école, sont attachés... La gauche, par exemple, est incapable d'imposer dans le débat public une thématique de défense du service public. Alors qu'on a des problèmes criants de moyens sur les services publics, on va continuer à parler de réduction des déficits. Et la gauche va entrer dans ce débat de réduction des déficits. Et ça, c'est une grande leçon de communication politique que les États-Unis ont appris. C'est que, et c'est pour ça que Trump a été battu aussi, c'est que si on accepte les cadres de pensée de l'adversaire, par exemple, il faut réduire les déficits publics, on est perdant quand on est de gauche. Parce que non, il ne faut pas forcément les réduire. Voilà, la réalité économique brutale mondiale, c'est que non, il ne faut pas forcément lutter contre le déficit.
Youm Nikhazov ?
Oui, sur la question de la mise à l'agenda, l'extrême droite, effectivement, arrive à mettre ses thématiques préférées dans l'agenda public, dans l'agenda médiatique aussi, je pense qu'on va en rediscuter. Mais il ne faut pas non plus nier le fait que parfois, ce sont des gens qui ne sont pas d'extrême droite qui mettent à l'agenda ces mêmes thématiques. On peut penser par exemple au projet de loi immigration qui est arrivé à l'agenda démocratique du Parlement, mais aussi donc à l'agenda médiatique. Et ce projet de loi immigration, par exemple, a in fine permis à Marine Le Pen de pouvoir revendiquer une victoire idéologique. Elle l'a dit sur tous les tons et sur tous les plateaux. Et a fait que le RN était ravi de pouvoir participer à des débats au Parlement sur ces thématiques à lui, sur lesquelles, effectivement, il est tranquille. Il peut distiller ses éléments de langage qu'il a travaillé depuis maintenant les années 70, à peu près, parce que ça n'a pas beaucoup bougé sur cette thématique-là. Donc, il y a aussi, dans la mise à l'agenda, des gens qui rentrent dans ce jeu-là et qui permettent à l'extrême droite, effectivement, d'être plutôt tranquille.
Le Rassemblement national est-il le seul parti à se faire entendre en vue des élections européennes ? La question qu'on pose ce soir, alors que la campagne commence doucement, même si les meetings se multiplient chaque week-end. Mes trois invités, Youm Nikhazov, que l'on vient d'entendre, journaliste à Mediapart, en charge de l'extrême droite, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, professeur à Sciences Po, et Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Olivier Roucan, c'est à vous que j'aurais posé la question, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce que le RN est le seul parti à se faire entendre ? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a un tel relais médiatique ? Youm Nikhazov a commencé à le soulever. J'ai envie presque de parler de battage médiatique autour du Rassemblement National. On a l'impression que chaque fait et geste de Jordan Bardella, certes en campagne, est relayé, commenté, multiplié.
Je vais répondre à la question. Je voudrais juste prolonger, parce que ça va dans le prolongement, ce qui vient d'être dit sur la sidération et sur le fait que les thèmes choisis par le Rassemblement national attirent les autres. C'est la polarisation du débat. Cette polarisation, d'ailleurs, c'est marche au regard de la visibilité et de l'effet émotionnel que cela va avoir dans l'opinion. Donc ce sont des thèmes clivants, des thèmes simples. On simplifie le discours qui va avec et on arrive à attirer et progressivement à élargir. Mais tout ceci fonctionne bien au-delà de la sidération, encore une fois parce que à force de petits coups tactiques pour garder tel ou tel électorat, les partis dits de gouvernement ont voulu jouer au plus fin et au plus malin avec d'abord le Front National et le Rassemblement National. Et je rappelle quand même qu'en 2002 se posait déjà exactement le même problème. Alors c'est vrai déjà sur l'immigration, mais aussi sur la sécurité. Et que si on a eu Jean-Marie Le Pen au second tour devant Lionel Jospin, c'est parce que déjà il y avait eu cette polarisation sur l'enjeu sécurité. Et depuis, cela dure et le Rassemblement National finit par imposer un amalgame idéologique entre sécurité et immigration.
Mais parce que les autres partis n'ont rien à opposer ?
Parce que les autres partis, je vous dis, choisissent tactiquement de suivre pour conserver tel ou tel électorat, l'électorat âgé, les cadres supérieurs. Et on voit que tout ceci, d'ailleurs, est en train de s'effondrer. Et à force de faire de la tactique, on ne fait plus stratégie. Alors, en effet...
Chaque sujet devient très politique, finalement.
Stratégiquement, on n'arrive plus à défendre... Les partis de gouvernement n'arrivent plus à défendre leur ligne de force... qui est de s'opposer, par exemple, à la conception même du problème que véhicule le Rassemblement national et de l'immigration et de la sécurité, par exemple. Il n'y a plus aujourd'hui de discours frontal audible par rapport à ce que défend le Rassemblement national. Et médiatiquement, je parle de visibilité et de discours audible. Bon, il y a quand même aussi quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire que dans les médias aujourd'hui, et c'est lié à des tas de phénomènes élitaires, le Rassemblement national est devenu respectable. Ça tient aussi à l'évolution du paysage médiatique, avec la montée en puissance d'une chaîne info qui s'appelle CNews en France, par exemple. Et au-delà de groupes de presse, et ça, c'est aussi quelque chose d'européen, ce n'est pas du tout que français. Donc il y a une installation, une structuration... De véhicules, de vecteurs médiatiques qui aujourd'hui sont plutôt favorables à la diffusion de ces idées. Ce qui n'était pas le cas, par contre, ça, il y a 20 ans.
La notabilisation du Rassemblement national. Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, c'est y a un groupe de presse qui est constitué aujourd'hui qui est capable de soutenir une aventure présidentielle. Donc c'est un changement assez considérable. Je pense que si le RN l'emporte en 2027, évidemment, à titre personnel, je ne le souhaite pas, je précise, mais il y aura le lendemain matin une élite parisienne qui sera vraisemblablement pro-RN ou qui s'accommodera de ça. Et voilà, la grosse différence, moi, ce qu'il faut comprendre, parce que quand on n'est pas en France, on ne peut pas forcément le comprendre. Ce qui fait la différence avec l'Italie où Meloni, l'extrême droite, est arrivée au pouvoir, c'est qu'en Italie, il y a un régime parlementaire. Elle a des alliés, Meloni, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle fait une politique qu'on juge, à tort ou à raison, plus modérée que ce qu'elle pourrait être. Voilà. C'est parce qu'elle a des limites, elle a des alliés, elle a un équilibre à trouver au Parlement. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. En France, si Marine Le Pen est élue, c'est ce qu'on appelle « winner takes it all », c'est le gagnant prend tout. Il y aura très peu de contre-pouvoirs, il y en aura vraiment très peu. Par ailleurs, quand il y en aura, elle passera vraisemblablement en force. Donc ça va être un crash test pour la démocratie française et ça risque d'être assez violent. Il n'y aura pas de contre-pouvoirs. Il faut comprendre qu'il n'y en a pas beaucoup là en l'état des choses, de contre-pouvoirs.
On n'en est pas là. Il y a les Européennes d'ici là. C'est la question qu'on pose ce soir.
J'ai envie
de demander qu'est-ce qui peut se passer là, parce qu'on a encore une fois ces chiffres qui sont assez impressionnants. Je redonne 31,5% selon le dernier sondage ce lundi, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, et derrière c'est 17% Valérie Ayère, la candidate de Renaissance. Olivier Roucan, est-ce que la campagne de Valérie Ayère peut décoller? Une date qui est très attendue, qui est jeudi, le discours à la Sorbonne sur l'Europe d'Emmanuel Macron, qui veut un peu rejouer son discours de 2017, juste après son élection. Est-ce que ça... parce qu'il y a Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a dit que la campagne n'a pas encore vraiment commencé. Est-ce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses en un mois et demi?
On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la campagne. Est-ce qu'on commence de plus en plus tard? Ouais. En effet, le Rassemblement national a commencé tôt. C'est d'ailleurs le parti le plus structuré aujourd'hui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il est clair qu'il va y avoir quand même des évolutions, sans doute. Mais ce que je voulais dire, ça commence tard, c'est parce que aussi l'électeur moyen, l'opinion, est touché de plus en plus tard par une campagne, finalement.
Les Français ne se passionnent pas pour ces élections européennes, pour le moment.
Ils ne se passionnent pas et ils se passionnent peu, de toute façon, depuis assez longtemps, pour les élections européennes.
Il y a 5 ans, il y avait eu une belle participation. Il y avait un sursaut.
On est content maintenant quand on a 52% de participation. Ouais. Où en est-on ?
C'était un record, ouais.
Donc, vous voyez, alors là, on pourrait discuter des raisons de cette abstention pour les européennes, mais la perte, l'absence de visibilité, notamment des députés européens. En 5 ans, qui connaît un député européen, à part la tête de liste ? Je ne sais pas. Mais il y a cette question qui me semble très importante, de la difficulté aujourd'hui à mobiliser, à organiser un débat sur de vrais enjeux européens, alors que l'Europe vit un moment stratégique déterminant pour son avenir. Et nous, on va parler, et les électeurs le disent dans les enquêtes d'opinion, c'est les sujets nationaux qui vont prévaloir.
Mais qu'est-ce qui fait dire que les autres partis ne vont pas s'emparer de ces... Encore une fois, j'ouvrais mon débat là-dessus, les autres partis sont quand même censés être beaucoup plus europhiles que le Rassemblement national, qui caracole largement en tête Philippe Moreau-Chevrolet. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'à aucun moment, finalement, ces partis seront capables de s'emparer des sujets qui touchent vraiment les élections européennes?
Parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire campagne sur l'Europe. Déjà, le RN a résolu sa contradiction européenne très récemment. Et il cherche à avoir les électeurs âgés, seniors, précisément, qu'il essaie de disputer En Marche. Et ce cœur d'électorat, c'est le trésor de guerre de tout président élu, les seniors, parce que ce sont eux qui votent, pas les jeunes. Ça, pour les avoir, il faut être pro-européen. Les seniors, majoritairement, ils ne sont pas anti-européens. Ils n'ont pas envie de sortir de l'euro. Ils n'ont pas envie de faire un Frexit. Ça n'existe que dans l'esprit d'Asselineau, qui, rappelons-le, fait des score tout à fait ridicule. Donc ça n'est pas c'est pas structurant. Donc faire campagne sur l'Europe, pour eux, c'est pas très avantageux. Alors il vaut mieux faire campagne sur autre chose.
Voilà, donc finalement sur les thèmes nationaux.
Encore une fois,
dans le sillage du RN.
Mais le parti présidentiel, pour l'instant, n'a pas lancé non plus de campagne européenne. Ce qu'on disait, c'est que ça va démarrer tard. Ouais. Il doit le faire dans un discours, je crois que c'est dans quelques jours. Ouais. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est... jusqu'à présent, ils ont fait campagne auprès des seniors sur le fait que les jeunes étaient vraiment irresponsables et qu'il fallait les dresser. Ça fait 3 semaines qu'on dresse la jeunesse française. Ouais. Comme vous le savez, vous avez peut-être des enfants. Les enfants sont insupportables, ils font du bruit et ils ont, voilà, c'est pas des adultes. Et donc on va leur expliquer comment en devenir visiblement de meilleurs que nous. Mais c'est pas un thème européen. Ça, l'Europe n'est pas en train de débattre du sort de la jeunesse en ce moment.
En tout cas, on a vraiment changé de tempo par rapport à il y a 5 ans où Europe Écologie Les Verts est arrivé en 3e position. Je veux dire, on est loin de cette dynamique actuellement.
Oui, on en est loin parce que le débat n'est pas le même, le contexte n'est pas le même non plus. Le pays est traumatisé par ce qui s'est passé avec le Covid, il est traumatisé par la crise économique, l'inflation. On n'est pas dans un contexte où on peut installer sereinement des débats. On est dans un contexte extrêmement volatile et violent.
Yumni Kezouf, la dynamique, elle est complètement à l'inverse pour Jordan Bardella, la Rassemblement National, qui a le vent en poupe, qui bat campagne, mais qui a snobé les deux premiers débats auxquels il devait participer. Est-ce que lui, pour le coup, alors la question c'est est-ce que les autres peuvent lancer leur campagne, lui c'est est-ce qu'il peut s'effondrer ?
Alors ça, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, la vraie crainte du côté du RN, ils sont extrêmement confiants globalement sur leur score. Jordan Bardella, ça fait depuis le mois de septembre qu'il dit qu'il vise les 30%. Voilà, ils vont annoncer leur liste, en tout cas les gens éligibles. Ils vont en annoncer environ 35, ce qui équivaut voilà, à un score entre 30 et 35%. Maintenant, là où ils ont un peu plus peur, c'est sur la démobilisation de leur électorat. L'électorat RN est un électorat qui est généralement mobilisé, sûr de voter, qui va voter pour mettre un bulletin RN dans l'urne. Mais il peut y avoir l'effet des sondages flatteurs, du coup une démobilisation d'électeurs qui se disent « bon, c'est gagné, est-ce que vraiment ils ont besoin de mon vote ?» Donc Jordan Bardella, en ce moment, répète à l'envi qu'il faut vraiment aller voter, qu'il faut vraiment voter pour lui, que rien n'est fait, etc. Maintenant, ils sont dans une confiance totale qui s'est effectivement illustrée par le fait que Jordan Bardella a snobé ni un ni deux, mais même trois débats avec les autres têtes de liste. Un sur Public Sénat, un sur vos antennes ouais. Et un troisième qui est organisé par des associations écologistes, donc spécifiquement sur le Pacte Vert. À aucun de ces trois débats, Jordan Bardella ne s'est présenté. Il a envoyé à chaque fois un représentant, parfois même un représentant pas sur la liste. Donc, là, il y a une sorte de mépris quand même vis-à-vis globalement de la dynamique de campagne, justement, qui, même si elle ne passionne pas les foules, est quand même un petit peu lancée, puisqu'on a des débats entre têtes de liste qui s'affrontent, etc.
Olivier Roucan, je vais poser une dernière question qui, je trouve, résume bien l'enjeu de notre débat, qui est est-ce que le Rassemblement National est le seul parti à se faire entendre ? Bien oui, d'après ce qui émerge. Mais la raison est-elle pas que la question est toujours vive de savoir comment lutter contre le Rassemblement, j'allais dire Front National, parce que c'est encore une question qui valait il y a des décennies, qui est encore active aujourd'hui avec le Rassemblement National. Et finalement, les politiques n'ont toujours pas su répondre à cette question.
Ils n'ont pas su répondre. Comme on le disait tout à l'heure, ils ont fait de la tactique, ils ont oublié la stratégie. Et puis, je pense aussi qu'il y avait, c'était déjà visible dans les années 2000, une sorte d'incapacité à réaliser qu'ils étaient sur la sellette, qu'ils étaient en danger, notamment vis-à-vis des populistes. Ils regardent toujours ça avec quand même un peu de mépris. Et puis, il y a eu l'instrumentalisation du populisme. Ça, c'est le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va installer un clivage, parti de la raison, contre les populistes. C'est le clivage que veut installer Emmanuel Macron depuis 2017. On est sur cet angle. Et forcément, ça favorise quand même le Rassemblement National par rapport aux autres opposants, cette dynamique.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Merci Olivier Roucan, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques, chercheur associé au CERSA, Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Philippe Moreau-Chevrolet, merci. Spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, professeur à Sciences Po. Merci Yumni Kezouf, journaliste à Mediapart en charge de l'extrême droite. Merci à Hélène Avril et à Florence Ponce et Arnold Lassewa pour ce débat. Allez, dans un peu plus d'une minute, Clotilde Dumais pour le journal de 20h et le décryptage. Ce soir, la question majeure de la pollution plastique à la veille de l'ouverture au Canada de négociations cruciales sur le sujet. Juste après, ce sera l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain. Au programme ce soir, Romain, un procès inédit au tribunal correctionnel de Paris. Celui de la fille du défunt président gabonais Omar Bongo, qui était jugée en France depuis le mois de janvier pour corruption d'agents publics étrangers. Ce lundi, elle a été relaxée. Sébastien Némette était à l'audience pour Radio France Internationale. Nous reparlerons aussi de cette prise d'otage spectaculaire dans le centre du Mali. 110 personnes circulant à bord de 3 bus de transport en commun enlevées la semaine dernière par des djihadistes présumés. Ce soir, un proche de l'une des personnes enlevées témoigne.
Eh bien, merci Zéphirin Quadio. Rendez-vous dans 30 minutes sur RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.